Radio X.
Hey les jeunes, on a un influenceur en studio. Première réaction qu'on a eue quand Fernel Morissette a été admis dans le sein des saints de la grande collection des candidats de la prochaine campagne. La réaction que tu as eue, Dan, c'est quoi?
Bon coup du Parti libéral. C'était ça ma réaction. Bon coup du Parti libéral parce que ça rapproche les jeunes de la politique. Et puis, tu sais, on l'a fait hier, on a fait les tests un peu, on a regardé ici et là, puis on est obligé de se rendre compte qu'effectivement, c'est une personnalité qui est connue de la part des plus jeunes générations.
Fernel Morissette, salut, comment ça va?
Ça va très bien, merci de m'inviter chez vous.
La campagne a commencé.
Ah, la campagne...
C'est chapeau de roue, hein, vite, partout.
Je pense que c'est normal que les gens commencent à se déclarer, mais je veux dire, on est loin de la campagne.
Oui,
encore.
La neige n'a pas fondu, puis ça va être à l'Halloween.
C'est une encore en politique. Là. Mais je veux dire, oui, je pense que c'est important que les gens commencent à s'afficher, puis c'est normal que dans les prochaines semaines, prochains mois, tous les partis vont sûrement commencer à déclarer, ça va être qui leur candidat.
Un libéral dans Taschereau, c'est-tu comme un péquiste dans Westmount?
J'ai les yeux ouverts, là, je sais, j'ai regardé les chiffres, j'ai regardé les stats, je sais dans quoi je m'embarque, mais j'habite dans Taschereau. Alors pour moi, la décision a été aussi simple que ça, je pense que
ouais, l'été devrait
représenter. Ben oui, mais ça reste que j'habite dans Taschereau pareil, là, je veux dire, c'est chez moi, je vais me présenter là où je vis.
Oh, t'as-tu vraiment laissé le choix?
Il y a eu des discussions là-dessus, oui.
Et toi, t'as vraiment insisté?
Je voulais me présenter là où je vis, c'est là où je me vois.
Je respecte ça, absolument. Ouais. Mais pourquoi libéral?
Tu sais, aucun parti politique qui est parfait. Il ne faut pas s'imaginer que la politique, c'est une limousine qui te prend d'exactement où est-ce que tu es et qui t'amène exactement où est-ce que tu veux aller. Il faut que tu trouves un groupe qui se rapproche le plus possible. Puis après ça, ben, tu suis les grandes lignes puis tu essaies de faire du chemin par la suite comme tu peux. Et pour moi, ben, le parti qui rapproche le plus, que je pense être l'orientation qu'on devrait prendre, c'est le Parti libéral du Québec, particulièrement pour sa politique de décentralisation du pouvoir. T'sais, on a eu un gouvernement qui a été très centralisateur, qui mettait beaucoup de pouvoir entre les mains du Conseil des ministres, entre les mains du Premier ministre. Et par flexibilité, par rapidité, c'est correct, mais des fois, en voulant agir trop vite, on commence à faire des décisions qui sont peut-être un peu trop uniformes, puis qui sont pas très flexibles, pas très adaptées. Alors, je pense que le plus possible, on va avoir des décisions qui sont prises le plus proche des gens qui vont subir le résultat de ces décisions-là. Ça veut dire de la décentralisation, puis c'est le Parti libéral qui porte ça pour le moment.
Ça veut dire abolir Santé Québec?
Ben, ça veut dire, je ne vais pas me lancer dans des décisions du genre parce qu'il y a encore du travail à faire. Je pense que Santé Québec, c'est très centralisé, oui. Mais si on commence chaque fois qu'un gouvernement développe quelque chose d'autre, le prochain gouvernement le défait, on fait réforme après réforme, les gens sont jamais capables
de
se rattraper.
Oui, mais vous voulez décentraliser, tu n'auras pas le choix.
Ben, tu sais, oui, il faut décentraliser, mais est-ce que ça veut dire abolir? Est-ce que ça veut dire ajouter plus de flexibilité locale dans les situations très précises?
Comme les écoles, par exemple, plus indépendantes, les écoles... Plus indépendante pour faire
Oui,
Morissette,
moi,
ça
je
veut dire
pense
quoi,
absolument
là?
Que les écoles devraient être plus indépendantes. Je pense que si on dit qu'on veut respecter les enseignants, ça veut dire qu'on ne va pas juste leur donner une tape sur le dos et dire bravo. Il faut vraiment leur donner le respect organisationnel. Puis ça veut dire les reconnaître comme des professionnels, des gens qui sont capables de gérer leur classe, de gérer leur pratique, pas juste des gens à qui on donne des ordres du ministère.
Tu as travaillé pour Lightbound, tu l'as dit durant
la campagne. Avec Lightbound, je veux préciser. Là, je veux dire, c'est avec du bénévolat, là, mais oui, c'est un ami de longue
durant
date.
Durant la campagne.
Son directeur de campagne 2015-2019, oui.
Est-ce que t'es Carney ou t'es Trudeau?
Beaucoup plus Carney.
Pourquoi?
Parce que tu sais, j'ai beau, là, je suis sûr qu'on va y venir, là, j'ai beau être quelqu'un qui est un progressiste, je suis un pragmatique en premier, puis j'aime pas me faire dire quoi faire, et je respecte les gens qui sont pas d'accord avec moi, qui peuvent pas se faire dire quoi faire non plus. Le rôle du gouvernement, des fois, c'est de dire quoi faire aux gens, mais on doit faire le moins possible, le plus qu'on peut. Et je pense que ça veut aussi dire qu'il faut, des fois, mettre de l'eau dans son vin, il faut écouter les gens, les autres, puis des fois, ça veut dire, ouais, OK, ben cette fois-ci, c'est pas exactement ce que je voudrais, là, mais... pour avancer, pour qu'on ait une solution viable qui va tenir au lieu de toujours flip-flopper d'un gouvernement à l'autre selon les idéologies en place, il faut être prêt à s'écouter entre ensemble. Puis je vois beaucoup plus ça dans Mark Carney.
Est-ce que l'État québécois est trop gros? C'est quoi ta vision? Parce que Dan a écouté beaucoup de vidéos, puis on va te présenter des extraits triés sur le volet par Dan et tout ça. T'es pas très polarisant, t'es plus dans le mode explicatif, pédagogique.
Possible, oui. Je cache pas qu'il y a quand même il y a de mes valeurs, de mes positions dans mon raisonnement.
Et
là, mais
c'est
oui.
Parfait. Mais je veux savoir où tu te campes au niveau gouvernemental, puis au niveau de l'État québécois, puis au niveau du modèle qu'on a. Est-ce que le modèle québécois est fini?
Le modèle québécois, si on le comprend actuellement comme quelque chose, c'est le gouvernement central qui prend à peu près toute la place... Moi, comme je disais, je préfère la décentralisation. Alors, quand on parle de la taille du gouvernement, il faut s'entendre sur c'est quoi le gouvernement. Est-ce que le gouvernement, ça inclut, par exemple, des conseils de quartier? Est-ce que ça inclut des commissions scolaires comme on a déjà eu? Est-ce que ça inclut d'autres formes de gouvernance, disons, non autoritaire, dans le sens où il n'y a pas l'autorité d'agir par la force? Moi, je crois que oui. Et si on a un gouvernement qui est décentralisé, qui a beaucoup de différentes poches de décision, que ce soit local, régional, national, j'ai pas de misère avec ça. Là où j'ai de la misère, c'est un gros gouvernement qui est entièrement dirigé du haut.
Est-ce qu'on en a pour notre argent?
Ça, c'est toujours la question. Je veux dire,
parce qu'on paye des impôts.
Oui, on paye beaucoup d'impôts.
T'en payes des impôts?
Oui.
Est-ce qu'on en a pour notre argent au Québec?
Je pense qu'on pourrait faire mieux. Mais moi, ma réponse à cette question-là, c'est toujours exigeons mieux plutôt que demander moins.
Est-ce qu'on paye trop d'impôts? Question plus directe.
Est-ce qu'on paye trop d'impôts pour les services qu'on a actuellement? Oui.
Donc, on baisse les impôts.
Ou on augmente les services. Mais il faut que...
Augmenter les services, ça veut dire quoi? Plus d'argent dans le système?
Non, augmenter dans le sens de les améliorer. Puis encore une fois,
est-ce
les
qu'on
améliorer
peut le faire?
Ben, je pense
améliorer
que oui.
Améliorer quoi?
Je pense
de quelle manière?
La décentralisation, pour moi, c'est un bon exemple de comment on l'améliore. Parce que c'est normal que si tu donnes une directive qui doit être appliquée absolument pareil partout, ça va coûter très cher appliquer une politique conçue pour Montréal en Beauce. C'est normal. Il va falloir ajouter des mécanismes, toutes sortes de choses. Parce que si tu essaies d'utiliser une clé de ta porte pour partir ton char, il va falloir que tu aies un adapteur. C'est un peu le même principe. Alors, ce qui coûte cher, je crois, c'est la politique du mur à mur, la politique de tout le monde doit faire toujours la même chose quand les réalités locales dans chaque communauté, dans chaque région, ne sont pas les mêmes.
Troisième lien.
Oui.
Pour ou contre, et pourquoi?
Moi, quand je ferme mes yeux, puis j'imagine la région de Québec dans 100 ans, je ne peux pas m'imaginer qu'on a juste les deux ponts actuels. Alors, à partir de ce moment-là, c'est une question de où et quand. On va avoir des discussions là-dessus. Je pense qu'une des choses qui fait vraiment mal à cette discussion-là présentement, c'est qu'elle est rendue tellement polarisée que c'est rendu une question presque identitaire. Oui. C'est comme comment tu voterais au référendum. Je veux dire, c'est un projet d'infrastructure important, là, je le reconnais, mais c'est un projet d'infrastructure. C'est normal qu'on essaie de trouver le meilleur timing pour le faire avant qu'on en ait absolument un besoin criant, mais pas non plus nécessairement à un moment où les conditions économiques font en sorte que ça coûterait vraiment trop cher le faire tout de suite. Alors moi, je suis pour, mais pas n'importe quel, puis pas à n'importe quel prix.
Où tu le verrais?
Moi, je le verrais plus à l'Est, mais là-dessus, je suis ouvert à avoir des arguments différents. Une des raisons que je le verrais plus à l'Est, c'est parce que je peux beaucoup imaginer ça comme un projet régional. T'sais, j'imagine les gens de la Côte-Nord qui veulent se rendre en Gaspésie, avoir un lien plus à l'Est qui leur permettrait d'éviter le centre-ville, ça me semble raisonnable. Mais il y a des très bons arguments aussi pour le faire ailleurs, puis je suis ouvert à des arguments.
Il faut être honnête, ton chef est pour aussi. Il est venu ici, il vient de Lévis, même s'il reste peu à Lévis, il est pour. Donc, ce n'est plus le Parti libéral d'avant qui était contre ou qui était plus mitigé, mais on verra pour la suite.
Puis,
comme
puis,
tu dis,
je comprends
qu'il est devenu toxique.
Puis je comprends qu'il y a des gens qui sont très à tire de couteau. Ouais, oui, tu sais, sans vouloir nécessairement blâmer qui que ce soit, j'ai l'impression que la CAQ le disait un peu comme une carotte pour appeler certains électeurs quand il y en avait besoin. T'sais, mais je comprends qu'il y a des gens qui sont très opposés à ça aussi, entre autres, parce que oui, il y a des problèmes d'étalement urbain qui vont faire qu'éventuellement, ça va pas... Il faut que ce soit fait de façon intelligente, qui vient avec des protections intelligentes pour nos terres agricoles, entre autres. Moi, j'ai grandi à l'île d'Orléans. Ça, c'est des enjeux qui sont importants aussi, pas juste pour le fun, parce qu'on aime ça, parce que, je veux dire, il faut qu'on mange. Puis il faut pas que toutes nos belles terres agricoles dans ce secteur-là soient remplies par des banlieues parce qu'on a mal fait notre planification.
Qu'est-ce que tu vas dire aux progressistes de Taschereau? Hein? Arrêtez donc de voter pour Grandmont, votez pour moi.
Moi, je veux pas faire campagne contre M. Grandmont. Moi, je veux faire campagne...
Ça donne qu'il est député.
Ben, ouais, ça donne qu'il est député, puis c'est la nature de notre réalité.
T'as beau pour vouloir de chicane, oui, mais lui va vouloir avoir une chicane avec toi.
Ben, jusqu'à date, ça va très bien. On s'est parlé hier, puis...
Il
y a une job, puis on va être plusieurs à la vouloir. Mais ce que je dirais aux progressistes dans Taschereau, c'est que moi aussi, je suis un progressiste, mais il faut faire preuve de pragmatisme. T'sais, si on veut absolument tout avoir ce qu'on veut... Dans une démocratie qu'on partage avec des gens qui ont des points de vue différents, il faut trouver des compromis qui ne sont pas des compromissions.
Ils sont trop flyés, QS?
Ils ont peut-être une organisation qui leur permet un peu moins le genre de flexibilité, de compromis qui est nécessaire pour gouverner une société complexe.
Tu vas leur vendre l'idée de « Hey, je m'en vais au gouvernement, on va être élu ».
Je souhaite être élu, je souhaite que le gouvernement soit élu, certainement.
Montée, donc il y a comme une effervescence.
Oui, il y a une effervescence. Mmh. Les sondages 5 mois avant une élection, ça vaut ce que ça vaut, tu le sais bien que moi. Là.
Bravo pour la prudence.
Oui, tu sais, faut pas faire. Puis je veux dire, aux dernières élections, Taschereau, Parti libéral, le candidat a eu moins de 6% du vote. Je suis pas en train de dire que j'ai gagné. Là.
Puis tu vas te vendre comme qui? Hey, moi, je suis un ingénieur. Hey, non, hey, moi, je suis un économiste. Ah, non, moi, j'ai étudié en droit puis j'ai été avocat à New York. Tu vas te vendre comment?
Je suis un citoyen. Je suis un citoyen qui a beaucoup d'intérêts différents. Je pense que le fait d'avoir eu plusieurs carrières différentes... Oui, je l'ai encore, je le porte encore. Je suis encore membre de l'Ordre des ingénieurs.
Ça ne tente pas de t'impliquer pour améliorer les routes?
Oui. Tu sais, je veux dire, se présenter aux élections, c'est une façon de s'impliquer pour améliorer les routes.
Oui.
Puis c'est parmi les choses, je veux dire, c'est moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'anime, c'est les droits et les libertés. C'est protéger ton droit de dire ce que tu veux à ton micro, comme je protège le droit de quelqu'un d'autre à dire ce qu'il veut au sien. À l'intérieur de balises, qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des dérapages, mais je veux dire, je pense pas que parce que je suis pas d'accord avec toi, je peux te dire que t'as pas le droit de le dire. Là. C'est le genre de choses que moi, je veux faire. Et puis ça, je pense que ça va tant chercher des progressistes que des gens qui sont peut-être un peu plus axé sur d'autres valeurs que je respecte énormément aussi.
Et si tu peux amener des jeunes à être impliqués dans le processus, ça, je ne peux que saluer ça. Ton mémoire en économie, tu l'as fait sur quoi?
Ça touchait le lien entre l'état de droit et la valeur des monnaies nationales. Donc, présentement, on a un système qu'on appelle les monnaies fiat, qui veut essentiellement dire que l'argent a de la valeur simplement parce que le gouvernement le dit. T'sais, notre argent, le dollar canadien... Basé sur la confiance, exactement. Alors, mon sujet de mémoire, c'était d'essayer de trouver... Ça garantit la valeur du dollar, mettons, mais ça garantit pas la valeur de 1 dollar. C'est-à-dire, on sait que l'argent a de la valeur, mais combien de pommes tu peux acheter avec 1 dollar, ça, c'est pas répondu par le fait que la confiance du gouvernement. Alors, mon sujet de maîtrise, c'était que la valeur de une unité de monnaie de 1 $ est beaucoup liée aux décisions de droit, aux décisions de l'État de droit qui sont...
Et à la crédibilité.
Et à la crédibilité du gouvernement, ouais. Et à la confiance du public que le gouvernement ne va pas changer ses lois d'un jour à l'autre.
Je passe la POC à Dan, qui a fait une belle sélection.
Oui. On n'aura pas le temps de toutes les jouer, donc on va y aller quand même trier sur le volet. On va commencer par celle qu'on a fait jouer hier matin, parce que c'est celle qui a fait le plus réagir concernant... parce que faut dire que le TikTok et le Instagram de Farnell Morissette, il est très, très productif. C'est sans doute un vidéo
par jour.
Je me
sens vraiment mal pour les apparatchiks des autres partis qui sont en train de l'éplucher présentement pour essayer de trouver quelque part où m'attraper, là, parce qu'il y en a du stock.
Chose certaine, puis je vais le dire, parce que Dom m'a parlé de traite tantôt, je suis vraiment pas tombé sur le cul, même que si on m'avait demandé pour quel parti ce gars-là se présenterait, j'aurais dit le Parti libéral.
Je pense que les gens qui me suivent de près depuis assez longtemps sont aucunement surpris.
On commence avec une vidéo sur l'aide médicale à mourir.
Une chose qu'on oublie souvent, c'est que la santé, c'est beaucoup aussi une question de culture. Puis la culture est formée par les choix, des fois difficiles, qu'on fait tous dans nos propres vies. Là, je veux pas vous dire quoi faire ou quoi penser, c'est pas ma place, surtout pour des questions du genre. Même si je me souhaite une longue vie en santé, ça se peut qu'un jour je sois atteint d'une maladie grave qui va à peu près assurément mener à ma mort. Là, soyons clairs, là, c'est pas une question d'âge, ça pourrait arriver n'importe quand. Si on met face à la décision entre demander des traitements qui vont probablement juste ajouter quelques mois ou une année ou deux de souffrance à ma vie et qui en plus va probablement coûter beaucoup de ressources à notre système collectif ou accepter que mon temps est venu et me laisser aller dans le plus grand confort possible, j'espère avoir la fortitude nécessaire pour accepter la deuxième option. Et si jamais c'est nécessaire, j'espère être entouré par des gens qui m'aiment assez pour avoir le courage de me dire peut-être que les ressources que je demanderais seraient mieux utilisées ailleurs par d'autres personnes qui ont des meilleures chances. Évidemment.
Donc, je vais me priver pour donner de l'argent au gouvernement sauver l'État.
Pas je vais me priver. Je veux mourir selon mes termes. Je veux le faire dans le plus grand confort possible. Et puis, je veux pas m'acharner à me garder en vie dans une douleur.
Ça, là, ton schéma de pensée, c'est la liberté que tu appliques à ta propre existence.
C'est la liberté à mon existence. Et je veux jamais, jamais retirer ce choix-là de qui que ce soit d'autre non plus.
Je comprends très bien. Prolongation, on y va encore.
Oh, oui, on y va. Celle-là, je le trouve super intéressant. C'est parce qu'il y en a beaucoup que j'ai hâte de voir si tu vas mettre en application quand tu seras élu.
J'ai hâte aussi.
Comme la responsabilité ministérielle, entre autres, j'espère qu'on va avoir le temps de se rendre. Mais là, on y va sur le travail des journalistes actuellement.
Les caméras dans le clip sont tournées vers M. Nadeau-Dubois, mais c'est des journalistes que je veux parler parce que je pense que ce vidéo capture un changement de paradigme qu'on est en train de vivre présentement. Remarquez la ligne de questionnement des deux journalistes. La première journaliste demande à M. Nadeau-Dubois de réagir à une communication du d'une association facultaire de l'UQAM. Puis elle n'est même pas capable de nommer ça vient de quelle association facultaire. Elle dit elle vient d'en prendre connaissance. Alors, on peut présumer qu'elle n'a probablement pas vérifié la source ou fait d'autres confirmations indépendantes de ce qu'elle dit. Dans sa réponse, M. Nadeau-Dubois dit qu'il ne reste pas à l'affût de toutes les communications de toutes les associations étudiantes. Et le prochain journaliste le reprend en insinuant qu'il venait de dire que les associations étudiantes, ça valait rien. Ce qui n'est pas du tout ce que M. Nadeau-Dubois venait de dire il y a quelques secondes. C'est une ligne de questionnement qui manque de rigueur et qui est de mauvaise foi. Puis M. Nadeau-Dubois est visiblement agacé par tout ça. Et c'est là qu'on arrive au changement de paradigme. Parce qu'il y a 10 ou 15 ans, le comportement des journalistes aurait jamais été diffusé au public. Le public aurait jamais pu voir la faible qualité du travail journalistique qui est en train de se faire ici.
OK. Qu'est-ce que vous pensez de journalistes?
Je respecte énormément les institutions journalistiques. Et pour moi, la critique de bonne foi, c'est un geste de respect. C'est ce que je faisais.
Mais est-ce qu'il y a un manque de rigueur? Est-ce qu'il y a un
des
manque...
Fois. Des fois, oui.
Est-ce que ça se détériore? Le fait que vous soyez plus populaire qu'à peu près n'importe qui dans vos messages et le fait qu'il y ait tant de tribunes alternatives qui se développent, ça démontre pas justement un déclin du journalisme mainstream?
Je pense que ça démontre que les institutions journalistiques ont peut-être été un peu lentes à réaliser qu'il y a eu un nouveau média.
Et là, ils sont en panique.
Et là, ils essaient de se rattraper vite. Il y a eu, bon, ben, je pense que le projet de loi ou la loi qui a mené à Meta à bloquer les nouvelles n'a pas aidé, mais ça, je veux dire, c'est je mets un peu le blâme sur les hauts dirigeants des institutions journalistiques qui pensaient avoir le gros bout du bâton. Je crois dans l'importance des institutions journalistiques, absolument.
Mais est-ce que les journalistes eux-mêmes s'éloignent du monde?
Les journalistes eux-mêmes, non. Non, je crois pas.
Ça, je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave.
Mais je pense qu'ils font face à des pressions institutionnelles qui viennent probablement de leur boss, qui viennent probablement aussi...
Qui ont des subventions pour payer une partie de leur salaire.
Qui ont une réalité économique qu'il faut qu'ils vendent de la pub, il faut qu'ils gardent l'attention aussi, puis qu'eux, ils voient le buffet du monde des médias institutionnels malheureusement rétréci année après année.
Mais les médias trop dépendants du gouvernement, c'est dangereux.
Les médias trop dépendants de n'importe... T'sais, un média qui est dépendant d'une seule source de financement va toujours avoir un point de vulnérabilité sur cette source de financement-là. Je pense qu'on devrait revoir puis essayer de diversifier les sources de financement des médias.
Dan, financement de la télé et de la culture.
Comment se fait-il que je fais une balado?
Ça commence avec... Je vais parler par-dessus Lou Morissette parce qu'on l'a déjà fait jouer. Là. Parce que tu fais souvent ça, mettre une vidéo avec commentaire de Farnell à venir. Là. Et puis là, c'était sur la réaction de Louis Morissette et de Nathalie Petrovski.
D'accord, mais à ce moment-là, si la télé s'en va là, ça veut dire que ça coûte moins cher pour la télé de faire des vidéos pas maquillées, pas éclairées, ouais. Plus ou moins. Là. Alors, on veut pas que la télé s'en aille là.
Pourquoi pas? T'sais, au tout début de la télé québécoise, les premières années de Radio-Canada, par exemple, les animateurs, les comédiens s'efforçaient de parler dans un français international parce que c'était considéré à l'époque le bon français, la bonne façon de se présenter. Et on l'a vécu comme une reconnaissance, même une émancipation de notre culture quand finalement, les gens sur notre télé ont commencé à parler comme nous, on parle. Et je suis sûr que, même à l'époque, il y avait des gens qui se disaient, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens de faire de la télé de même, on peut pas parler n'importe comment. Ben, de la même façon, pourquoi pas continuer ce développement-là et faire de la télé comme on est réellement, comme on le fait dans les podcasts? T'sais, c'est pas juste que ça coûte moins cher, peut-être aussi que ça représente mieux qui on est vraiment.
Financement de la télé, on fait quoi? Est-ce qu'on les laisse se débrouiller ou parce que t'as raison? Moi, je trouve que t'as entièrement raison dans cette vidéo-là. Effectivement, maintenant, t'es plus obligé de mettre beaucoup d'artifices. Les gens regardent des vidéos parce qu'ils veulent voir du monde qui les ressemble.
T'sais, l'exemple qui me revient toujours en tête avec ça, c'est l'émission « Dans une galaxie près de chez vous ». C'est le budget c'est quoi le budget d'une émission de « Dans une galaxie près de chez vous » on s'entend que c'était pas des millions. Là. Et ça a été un icône. Je veux dire, moi, j'ai grandi en écoutant ça, puis c'est encore aujourd'hui, les références me reviennent en tête. On est capable de faire de la culture incroyable sans nécessairement avoir besoin d'énormément d'artifices autour. Alors, au lieu d'essayer de faire, par exemple, de la télévision prestige tout le temps, puis essayer de compétitionner avec Succession, des affaires aux États-Unis, je veux dire, on est capable de faire des choses incroyables à notre échelle, à notre manière, puis on pourrait en faire tellement plus à partager les ressources entre plus de gens au lieu de les concentrer entre certains individus qui ont besoin d'avoir ou qui croient, je crois peut-être par habitude, qui croient avoir besoin d'énormément d'argent. Je pense que le milieu de la culture aussi, généralement, va être d'accord à dire, là, partager le butin entre le plus de monde possible, c'est comme ça qu'on va avoir les meilleurs créateurs.
Qu'est-ce que tu penses de Rebel News?
Je veux dire, Rebel News, font un... pour moi, je les mets dans une catégorie très similaire à moi, à vrai dire, dans le sens où c'est des gens qui font de l'information, mais qui font de l'information avec un point de vue. J'aimerais qu'ils assument un peu plus leur point de vue. T'sais, je pense que
dans le sens de?
Ben, dans le sens, je vois encore Rebel News prétendre ou sous-entendre à une impartialité.
Non, ils ne sont pas impartiaux.
Ben, ils ne le sont absolument pas. Là, pis...
J'ai jamais entendu Alexa dire qu'elle est impartiale.
C'est, pis, plus, moi, j'ai pas de misère avec l'existence de médias engagés. Je pense juste que ça devrait être pleinement assumé. C'est un peu à la même façon que j'ai toujours pleinement assumé mes valeurs, mes points de vue aussi.
Les transfuges. J'ai un gros bug avec ça. Okay. Surtout quand ça donne une majorité à quelqu'un à qui on voulait pas en donner une.
Mm-hmm.
Tandis quoi? Parce que t'aimes Carney. Donc, y avait-il raison à ce moment-là d'aller accueillir et cueillir des transfuges l'autre bord?
Ma position là-dessus serait la même, que ce soit Poilievre qui fait la même chose.
Oui. C'est,
moi, je crois beaucoup à l'importance du rôle du député, que ce soit un député fédéral, député provincial. On a une culture politique où je le reconnais, là, l'énorme majorité des gens, quand ils vont voter, ils votent pour un programme, un parti puis un
ouais,
chef.
Ouais.
Et je respecte ça. Mais je crois qu'en même temps qu'ils font ça, les gens se virent de bord et disent qu'ils sont donc bien tannés de la ligne de parti puis ils aimeraient donc bien que leurs représentants les représentent eux. Il y a une tension
mais
là.
Mais dans les gens, dans un comté donné, ont voté pour un individu.
Ouais.
Cet individu-là se revire de bord, cul par sous-tête, puis s'en va pour un autre parti.
Ben,
est-ce qu'on devrait redemander un mandat à la population? Si on est vraiment démocrate, il me semble que c'est ça qu'on devrait faire, non?
Ben, je pense que ça, c'est une décision que notre système actuel donne à chaque député. Je questionne peut-être le raisonnement puis le jugement
toi,
des députés.
Toi, tu le ferais-tu?
Moi, je le ferais si je crois que le mandat qu'on m'a donné me permet de le faire. Et ben, dans
ça
les
veut
cas,
rien dire, ça.
Ben, non, mais ça veut dire dans le sens où moi,
toi,
je le ferais...
t'es élu, mettons, libéral.
Ouais.
Mettons, ou un autre, là, peu importe le parti, là. Et tu décides comme ça, à courte échéance quand même, ouais. Ça fait un an qu'il est là. Non, regarde, j'étais lunché avec le Parti libéral, ils me veulent, je m'en vais là. Et ça donne une majorité à l'autre parti.
Ben, okay.
C'est quand même odieux. Là.
Alors, dans une situation comme on a vu dans les derniers jours, dans le cas de Mme Gladue,
comment
par
tu
exemple,
la trouves,
moi, je l'aurais pas fait à sa place. Parce que je crois pas qu'elle a le mandat. Je pense pas que quand les gens l'ont élue, ils ont dit « Oui, je fais absolument confiance à Mme Gladue, à son jugement, puis elle pourra décider quel programme
faire. » Ce sont des conservateurs dans son côté.
C'est ça. Les gens qui l'ont élue, je crois, le mandat qu'ils lui ont donné, puis ça, je suis très confiant que c'est le cas, c'était de suivre la ligne de son parti.
Donc, tu l'aurais pas fait.
À sa place, je l'aurais pas fait. Mais mettons qu'une autre situation se présente, c'est Pierre Poilievre qui perd complètement la map, là. Ben là, je veux dire, je peux comprendre qu'il y a des députés qui disent « Ben là, moi, j'ai été élu pour un certain programme, puis là, j'ai un chef qui ne le suit plus. Je vais aller ailleurs. » Ce qui n'est pas le cas présentement. Alors, dans le cas présent, je ne l'aurais pas fait. Je ne crois pas qu'elle avait le mandat de le faire.
Et les autres non plus?
Et les autres, j'en ai pas vu que tu sais, je suis pas électeur dans leur comté, je suis pas à l'intérieur de leur tête, mais vu de l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être agi un peu contrairement au mandat qu'ils se sont fait donner.
Est-ce que c'est la bonne politique publique de couper les arbres sur René Lévesque alors qu'on n'a pas le plein financement du tramway?
C'est pas idéal, mais je suis confortable avec la décision, oui.
Pourquoi t'es confortable?
Ben, d'abord parce que moi, je me présente au niveau provincial, puis ça, c'est une décision que je crois être municipale.
Elle est belle, notre ville. C'est une des artères les plus belles.
Je l'adore, en
avec
effet.
Des arbres en oui. Santé, c'est confirmé, d'une centaine d'années.
Oui.
On arrive avec la chainsaw, on coupe ça, pensant que peut-être que le tramway va passer sur cette rue-là.
Encore une fois, je me présente au niveau provincial. Pour moi, la décentralisation, ça veut aussi dire qu'il faut respecter les décisions locales.
Peut-on avoir une opinion là-dessus?
Oh, mon opinion, c'est que tu peux pas bâtir le tramway sans couper ces arbres-là. Et la population a voté très clairement pour donner un mandat au maire Marchand de bâtir le tramway.
Bon, on n'a pas donné le mandat au maire Marchand de massacrer la ville?
Si on commence à avoir un référendum sur chaque arbre, ça va aller mal aussi. Là. À quelque part, il faut que
quand
tu donnes un mandat...
Donc, il peut faire n'importe quoi?
Non, pas n'importe quoi, mais il peut faire ce qui est nécessaire pour faire avancer le projet.
Et c'est intelligent
que le mandat
de le faire.
Tu peux pas bâtir un tramway sans couper ces arbres-là. Alors, si
non,
tu veux
on
n'a
pas le financement.
Je crois que le financement va venir.
Est-ce qu'on l'a?
Présentement, pas tout, mais je crois qu'il va venir.
Donc, on l'a pas?
Pas tout,
on n'a pas le fédéral. On n'a pas l'argent du fédéral.
Quand tu achètes une maison, tu le fais avec l'argent que tu n'as pas encore. Là, c'est correct aussi
non,
faire des choses
non,
de
non,
même.
Non. Tu peux pas massacrer un boisé pensant que peut-être la Banque nationale va te donner un prêt. Là. Pas de même, ça marche. Là.
Ouais, mais c'est, si on,
ça, tu peux pas acheter un terrain.
Si on attend toujours d'avoir absolument chaque pièce disponible prête à dépenser
non,
dans le compte
le
de banque,
c'est le projet le plus important de la ville de Québec.
C'est un projet très important, oui.
Le plus important que de l'histoire de la ville de Québec.
Oui, et c'est. Ben, je veux dire, on va peut-être avoir un désaccord là-dessus, mais moi, est-ce que ça se fasse même sans tout le financement encore? Je veux dire, faut qu'on
on coupe les armes, on verra après.
On coupe les arbres à l'intérieur d'un projet qui me semble
approuvé
par la population. Je veux dire, le maire Marchand a eu un des plus...
C'est pas approuvé par la population, là, en passant, là. C'était pas un référendum qu'on a eu sur le tramway, là.
Non, mais c'est justement...
C'est une élection avec deux autres candidats.
Si on est pour faire
candidats.
Un référendum chaque fois, ça va être tough avancé.
Est-ce qu'il y a une acceptabilité sociale pour le tramway?
Je crois que oui.
Prouvez-le.
Je pointe aux élections qu'on vient d'avoir.
C'est une élection.
Dernières élections municipales.
Lui est là, deux autres candidats sont là.
Oui.
Les gens ont choisi. Oui, effectivement, il était pour le tramway.
Oui, puis il y a eu un mandat très fort pour ça. Je veux dire, encore une fois, là, moi, je veux pas commencer à faire de l'ingérence provinciale dans les affaires municipales, pas plus que j'aime l'ingérence fédérale dans les affaires
provinciales.
Mais
est-ce qu'il y a un maximum, dernière question, pour le tramway?
Est-ce
que c'est quoi qu'il en coûte? Ou
Si demain matin, on apprend que ça va coûter un trilliard de dollars, non. Je veux dire, c'est comme tout. Pour moi, c'est comme le troisième lien, pas n'importe quoi à n'importe quel prix.
Vous avez travaillé pour Kiewit qui vient d'avoir le contrat du tramway.
Ça monte à fait longtemps, ça. C'était un stage que j'ai fait quand j'avais 21-22 ans. Mais oui, okay. j'ai travaillé pour Kiewit.
Mais les ingénieurs vont faire beaucoup d'argent avec ce projet-là à Québec, là, quand même. Vous êtes membre de l'Ordre?
Oui, je suis
c'est
là.
Sûr qu'il y a du monde qui vont faire beaucoup d'argent. Là.
Ben, n'importe quoi pas. Qu'on construit et quelque chose, il y a aussi, des gens là. Qui vont faire de l'argent. Je veux dire, c'est correct faire de l'argent. Là. J'ai rien contre les gens qui se font de l'argent en entreprise okay. privée.
Merci beaucoup d'être passé.
Ben, merci. Merci de m'avoir
On accueilli. Était en direct ou pas,
oui.
Dan?
Oh oui, on l'était.
Parfait. Mais là, on s'en va en pause en direct. Et vous êtes en direct dans Morais Live.
Depuis aujourd'hui, c'est illégal de prier dans la...
Morais. Petite pause. De retour dans un instant. Radio X.